Nous sommes vendredi le 30 janvier. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine de Québec. Alors, avant d'aborder le sujet de ce matin avec nos invités qui sont venus justement nous décharger sur ce plateau un autre épisode de l'injustice au Québec, je souhaite vous informer de la suite de Jean-Charles Dufresne, donc pour ceux qui ne le connaissaient pas. Alors, c'est une victime d'une grande bavure des agents du service de la police de la ville de Montréal, le SPVM. L'incident, chers auditrices, chers auditeurs, remonte au mois de décembre 2012. Alors, la victime, cette soirée-là, était spectateur, ni plus ni moins, d'un événement où deux policiers du SPVM se sont dépêchés après un appel du 911 pour une dispute éclatée entre un taxieur et son client. Alors, M. Jean-Charles Dufresne, qui s'est trouvé à proximité de l'incident, devient un de ces curieux, justement, qui regardait la scène. L'un des deux policiers qui se sont arrivés sur le lieu s'est dirigé directement vers les parties en conflit, alors que le second voulait disperser les quelques curieux qui observaient la scène. Alors, je vous rappelle aussi, chers auditrices, chers auditeurs, toujours que la victime dans ce dossier, M. Dufresne, n'était pas impliqué dans cette dispute qui s'est éclatée entre, justement, un taxière et son client. Alors, maintenant, il était simple, je dis bien, c'était un simple observateur, un curieux, si vous voulez, quand le policier, et sur un ton agressif, lui a demandé « décaliste-t-on ton ». Alors, décaliste-t-on quand d'ici, n'importe qui parmi nous, justement, ne va pas peut-être aimer d'être traité de cette manière-là. La victime, M. Dufresne, réplique une chose comme « je dérange personne, ce n'est pas pour moi que vous êtes ici ». Bref, l'adrénaline, prend un coup chez le policier et celui-ci se transforme en bête féroce. Alors, il agrippe le col des manteaux du M. Dufresne, il le jette par terre et en voulant justement le menotter, il lui torde le bras, imaginez-vous là, il lui torde le bras si fort en l'amenant vers l'arrière du corps qui lui brise l'humérus en deux et lui déchire les tendons du bras. Alors maintenant, la victime perd conscience. Maintenant, les deux policiers avant, ou plutôt devant la bêtise humaine, vont le transporter dans leur voiture pour l'amener où ? À l'hôpital ? Non ! Ils le balancent dans un parc pas loin, puis en lui laissant une contravention de 146 $. Pourquoi ? Pour avoir gêné ou entravé la circulation des piétons. Les deux policiers montent dans leur véhicule, puis ils s'en vont. Tout ça, chères auditrices, chers auditeurs, s'est passé ici, au centre-ville de Montréal. Nous ne sommes pas au Yémen, nous ne sommes pas en Afghanistan. Je parle ici, au Québec, ici à Montréal, au centre-ville de Montréal. Alors, je continue l'histoire du drame. La victime se lève avec le bras cassé en deux. Il se dirige à l'urgence, l'hôpital de Saint-Luc. Une plainte au criminel est formulée à l'endroit des deux policiers et plus particulièrement contre celui qui lui a brisé le bras. Le directeur des poursuites criminelles et pénales a pris une enquête bidon et, comme d'habitude, il décide de ne pas porter aucune accusation à l'endroit des deux policiers. Alors, le mage demande, est-ce qu'on peut savoir pourquoi cette décision ? Aucune réponse. Et on nous répond, c'est confidentiel. Ne pas porter d'accusation n'est pas confidentiel, mais dire pourquoi, ça c'est confidentiel. Le directeur des poursuites criminelles et pénales est pire que Dieu le Père. Personne n'a le droit de questionner, personne je dis pourquoi vous avez pris cette décision-là. Il a le droit de prendre des décisions, mais se réserve le droit de ne pas justifier quoi que ce soit donc dans ces dossiers. Et effectivement, l'autre bordel, le comité de la déontologie policière qui suspend cette enquête jusqu'à la fin de la première, va malheureusement se baser sur sa décision, sur ce qui a été conclu par le Dieu le Père, monsieur le DCPC. Résultat, quand il s'agit d'un policier impliqué dans la mort d'un homme ou d'une blessure grave, le mot d'ordre est donné d'avance, refus et confidentialité. Ça, c'est pire que la torture. Chère auditrice, chère auditeur, il y a quelque chose dans le code de la déontologie policière qu'on nomme la force excessive. Un policier, dans une telle intervention, n'a pas besoin d'utiliser ce degré de force. Est-ce que tordre le bras de quelqu'un jusqu'à lui briser en deux n'est pas une force excessive? Laisser une personne au milieu de la nuit avec un bras cassé en deux, une personne qui hurlait de douleur, partir sans le secourir, vous appelez ça comment dans le code de votre bordel de déontologie policière? Alors, dans leur version, chère auditrice, chère auditeur, les deux policiers prétendent que la victime ne leur a jamais parlé de son bras cassé. Alors, on conclut qu'il lui a demandé Avez-vous mal, mon cher monsieur Dufresne? Et lui, il a répondu non, ça va très bien. Ainsi qu'ils ont souhaité, j'imagine, une bonne nuit, et puis ils sont partis faire leur devoir, celui de protéger les citoyens. Chère auditrice, chers auditeurs, à un moment donné, il faut se questionner. Il faut se questionner pourquoi l'administration de la justice accorde un tel pouvoir quasiment absolu au directeur des poursuites criminelles et pénales au point de devenir inquiétant, menaçant, trop injuste dans une société où la justice est en libre chute. Alors il faut se questionner sur le droit de savoir pourquoi, par exemple, dans le cas de M. Dufresne, le DPCP a refusé de porter des accusations criminelles à l'endroit des policiers impliqués. Et pourquoi on l'empêche de connaître la raison, s'il y a une, bien sûr. Plusieurs plaignants, chères auditrices, chers auditeurs, ont vu leur plainte rejetée par le DPCP sans pouvoir connaître le motif du rejet. Voilà quand Dieu le Père au Québec se prononce. Nous n'avons pas le droit de répliquer et les victimes demeurent dans l'incompréhension totale jusqu'à la fin de leur vie. Chères auditrices, chers auditeurs, avant de passer à notre sujet de ce matin, nous allons prendre au moins 2 minutes pour écouter la réaction de M. Jean-Charles Dufresne, la victime dans ce dossier, pour connaître sa réaction. Alors, bonjour M. Dufresne.
Bonjour monsieur.
Est-ce que vous nous entendez bien?
Oui, j'entends bien.
Je veux savoir, en quelques mots, rapidement, quelle est votre réaction devant cette décision du DPCP de ne pas poursuivre les policiers, de ne pas porter aucune accusation contre les deux policiers impliqués, et encore pire, la déontologie policière, la décision de la déontologie policière de ne pas justement blâmer ces deux policiers dans votre cas?
Ça n'a vraiment pas d'allure, ça n'a vraiment pas de bon sens, surtout comme vous avez expliqué, ils vont casser le bras de même, ils vont laisser qu'un bras de même endommager, ils vont casser des impacts de même.
Monsieur,
en plus, monsieur comme vous dites, ils disent en plus dans le rapport qu'ils vont leur demander, ils n'avaient rien de brisé. En plus, c'est imaginable. C'est pour moi, je ne peux pas croyable, j'en reviens pas. En plus, moi, je ne peux pas travailler dans mon métier à cause de ça depuis ce temps-là. Mon métier, c'est bouché, puis je transporte des morceaux de pain, regarde, c'est le bœuf. C'est impossible avec le bras que j'ai maintenant. Ils vont être handicapé maintenant.
Monsieur Dufresne, s'il vous plaît, là, quand ils vont tordu le bras en arrière et puis. C'est les murus, hein, c'est pas un os de doigt. Hein.
Non, c'est un os,
un murus qui se casse en deux, là, j'imagine, a éclaté. Et est-ce que. Vous avez dit à ces policiers-là que vous avez le bras cassé?
Ben oui, je sais pas combien de fois. J'ai hurlé de douleur, premièrement. Parce qu'en plus, je me tenais pareil. Je vois une belle bras dans les airs. En plus, pour vous faire seul dans les airs. Puis là, c'est sûr que ça fait mal. Alors, j'en ai perdu connaissance, même. Connaissance deux, trois fois, comme pour, avec cause de ça. Puis c'est ça. C'est impossible qu'ils disent, là, qu'ils me l'ont demandé. C'est pas vrai. C'est impossible. Ça.
Et eux, dans leur rapport, ils disent la version, ils disent que non, on a demandé au monsieur, il avait rien. Il était bien, il super bien, il respirait bien, il était bien. Alors, casser un bras en deux, l'humérus, on parle d'humérus, hein, parce que vous êtes presque demi-handicapé présentement, et plusieurs opérations faites à ce bras-là, et à travers tout ça, la version est retenue, comme quoi ils vous ont demandé est-ce que vous avez, ça va bien, il n'y a rien, donc ils vous ont pris de l'endroit où vous étiez, et puis à quelle heure ils vous ont jeté dans un parc?
C'était à 4h du matin, là, je
me suis pas trop loin.
4h du matin, pas loin, ça n'a pas d'allure. Ils m'ont laissé le blessé en plus. Les policiers, c'est pour se marquer sur leur véhicule en plus, se marquer protéger, servir. Une chance, hein, qu'ils vont protéger et servir. Ils m'ont laissé le blessé, ils n'ont aucunement. Ils n'ont aucun droit de faire ça, premièrement. Même un être humain, une personne ne travaille pas dans les policiers, pas de droit de laisser quelqu'un malade, comme dire, quelqu'un blessé de main, il faut qu'il fasse de quoi, pareil, vous guérir. C'est un propre policier qui ne fait pas ça, c'est pas
normal. Monsieur Dufresne, quand vous ont brisé le bras en deux, et ils vous ont mené dans la voiture, et ils vous ont conduit dans le parc, pas loin, à 4h du matin, ils vous ont laissé dans le parc tout seul, et c'est vous que vous avez pris les moyens, ça veut dire que vous avez marché jusqu'à l'hôpital Saint-Luc,
à l'urgence. Oui, je disais le merci, c'était pas trop loin, mais quand même, c'est la douleur, c'était juste faire des pas de marcher, les os bourraient, c'était terrible, la douleur, ça n'a pas de sens, quand ça faisait mal, tout était déchiré, ils ont déchiré les tendons, les nerfs, ils avaient l'air de manger bien comme vous, le bro. Ce qui n'est pas comprenable là-dedans, c'est que c'est impossible qu'ils me l'aillent demander, ouais, si j'allais bien ou pas, c'est, voyons là, c'est avec les blessures que j'ai, n'importe quel médecin de qui va t'épingler, n'importe quoi vous dire, c'est impossible. M. Dufresne n'avait pas dit un mot, qu'il n'avait pas crié de douleur quand il avait causé ça, c'est impossible.
Monsieur Dufresne.
Mais comment ça que les autres disent que j'avais rien, qu'ils m'ont rien fait? C'est compréhensible.
Monsieur Dufresne.
Je comprends pas ça, c'est compréhensible.
Monsieur Dufresne.
Ils vont dire que les autres, ils ont toute la loi vers leur côté, les autres, c'est ça des autres, c'est des autres, c'est jamais, c'est nous autres des preuves, c'est nous autres des problèmes, c'est pas les autres, quoi. Ça me met à l'envers encore, j'en parle encore, puis l'émotion à ça, puis, en tout cas, J'en reviens pas. J'espère que le rappel qu'on va faire, que ça va donner quelque chose, que ça va changer quelque chose, ce coup-là. Parce que moi, je ne laisserai pas tomber jusqu'à temps que ça change.
Mais M. Desfrennes, là, pour vous, là, est-ce que le DPCP ou est-ce que la police SPVM vous ont appelé pour expliquer pourquoi ils ont refusé, ils n'ont pas porté d'aucune accusation contre les policiers? Est-ce qu'ils vous ont appelé? Est-ce qu'ils ont justifié? Est-ce qu'ils vous ont dit quoi que ce soit?
Non, aucunement. Rien.
Aucun mot?
Pas un mot. Rien.
On ferme la gueule et puis on reste dans notre coin, c'est ça?
C'est ça. OK. J'ai reçu une lettre là, comme vous faites. J'ai reçu la même chose. C'est ça qu'on a eu, puis c'est tout.
Et vous pensez que la déontologie policière...
Il n'y aurait pas de poursuite pour ça. Puis les policiers n'avaient pas fait...
Ils ont fait leur travail comme il faut.
Pardon?
Et les policiers, ils ont fait leur travail comme il faut.
Ouais,
c'est ça.
Tout est correct dans le rapport. Ils n'ont rien fait de mal. Puis c'est ça. Mais voyons donc.
Parce que M. Desfrennes...
Tout ce qu'il y a dans le rapport, premièrement, c'est aucunement... Le rapport, c'est même pas le vrai rapport. Okay. Pour moi, c'est rien de vrai d'exciter là-dedans. Aucunement, c'est vraiment pas posé comme ça.
Parce que M.
Ça rentre avec 4 policiers là-dedans. Il y en a juste 2. Puis il y en a juste 1 qui m'a fait ça. Puis quand je me casse le bras, s'il y en avait juste 1 qui était là, je me casse le bras. C'est tout, il n'y avait pas d'autre. Ça rentre avec d'autres policiers qui étaient là, qui l'ont vu qu'ils mettaient le bras droit et non pas le bras gauche. C'est justifié qu'ils ne m'ont pas fait ça, dans le fond. C'est impossible, ça y est arrivé. Voyons, c'est impossible.
Monsieur Desfrennes, pour que les gens qui vous écoutent, là, ils comprennent un petit peu, ça veut dire qu'il y avait juste 2 policiers qui étaient impliqués. Et dans leur dossier, dans la soi-disant l'enquête, dans le rapport, comme quoi il y avait 2 autres policiers qui étaient là et eux, ils ont témoigné comme quoi ils ont vu en train de me dire, monsieur, ça va bien, ils n'ont pas tordu le bras, quoi que ce soit, là. C'est ça?
Je mettais après le bas droit et non pas le bras gros. Ça n'a pas de sens, ce qui marque dans le rapport.
Mais ces policiers qui ont témoigné comme quoi ils étaient sur le lieu, ce n'était pas vrai. Il y avait juste 2 personnes.
C'est ça, oui.
Après ça, alors dans le rapport, il y a 4 policiers.
Le temps que c'est là, je parle dans l'autre place. Il n'y avait pas d'autres policiers là.
Alors, monsieur Jean-Charles Desfrennes, on comprend bien, vous n'êtes pas Pilado, hein, donc le traitement n'est pas pareil. Là.
Non,
c'est très bien
clair.
Peut-être 2 minutes, mon collègue Ernest, il veut dire 2 mots.
Simplement pour préciser que le mouvement Action Justice est impliqué dans le dossier de M. Desfrennes.
Oui.
Et puis, suite à la décision qui a été rendue en décembre dernier par la déontologie policière, qui ne blâmait aucunement les policiers qui sont impliqués là-dedans, le mouvement Action Justice a demandé officiellement une révision de cette décision. On est en attente d'une décision à ce niveau-là.
OK, parfait.
J'ai une petite question.
Rapidement, parce que...
On conteste pas les faits comme quoi les policiers vous ont immobilisé.
Oui.
Ils contestent pas les faits que vous étiez pas quelqu'un qui faisait des choses pas correctes.
Non, pas du tout. Non. Il était là.
Voilà.
Vous parlez de M. Desfrennes?
C'est ça.
Non, M. Desfrennes était spectateur. Il regardait.
Il conteste pas ces faits.
Non, il conteste pas ces faits-là. Il dit qu'il était là. Il n'était pas impliqué. Les policiers, dans la version, il était bien. Il était bien précis. Oui.
Et il ne conteste pas le fait non plus que c'est bel et bien le policier qui a fracturé le bras.
Okay. Voilà.
Et mais malgré le fait qu'il a fracturé le bras, ça ne constitue pas une faute déontologique.
Et c'est pas une force excessive. Okay. Écoutez, Monsieur Desfrennes, on vous remercie pour votre intervention et on vous souhaite bon courage. Et nous sommes là, derrière vous, ne s'inquiétez pas. On va faire tout ce qu'il faut pour arriver à dévoiler ce
dossier. Merci,
au revoir. Alors, maintenant, en revenant, chers auditrices, chers auditeurs, à notre sujet de ce matin, et encore pire, hein, parce que la mère qui a accepté de venir témoigner ce matin de son drame, elle s'appelle Gina. Alors, une mère sans histoire aucune, son seul crime, imaginez-vous, son seul crime commis, c'est d'avoir eu un rêve. Hein. Elle dormait la nuit. Puis elle a vu un rêve. Maintenant, est-ce que le fait de rêver est un crime en soi? Semble-t-il, maintenant au Québec, c'est un crime. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, vous allez voir que le directeur des poursuites criminelles et pénales va porter des accusations contre cette mère pour avoir eu un rêve. La Sûreté de Québec va procéder à son arrestation, imaginez-vous, pour avoir vu un rêve et l'avoir raconté. Alors, le Dieu le Père de la DPCP, portera des accusations criminelles contre cette mère-là et l'incarcera, imaginez-vous, sera incarcérée pendant 54 jours. Encore pire, elle perdra ses enfants dans le champ d'ADPJ. Moi, tout ce que je veux vous dire, chers auditeurs, si vous allez voir, si vous voyez un rêve Par exemple, vous voyez un rêve que vous êtes en train de étouffer votre chat, racontez ça à votre voisin, parce que le matin, vous allez voir que la protection des animaux, là.
SPCA.
La SPCA, ils vont débarquer chez vous, puis vous allez avoir des grands problèmes. Voilà, qui nous enseigne ici au Québec, chers auditrices, chers auditeurs, si vous voyez un rêve, prenez soin de ne pas le raconter à quelqu'un, s'il vous plaît. Au micro avec vous ce matin, Adja Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile dans nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer les abus de pouvoir. Mes invités sont Gina et son conjoint, Mario, je ne sais pas si c'est son conjoint ou non. Ils vont nous parler justement de ce rêve qui les a conduits à l'enfer, l'enfer du Dieu le Père. J'ai également avec moi Yann Stoll. Yann Stoll consacre sa vie à la défense des enfants qui sont pris dans le filet d'ADPJ. Et finalement, Ernest, un escarpé de la justice québécoise qui a vu sa vie écrouler comme un rêve. Chère auditrice, chers auditeurs, demeurer à l'écoute, dénoncer les injustices et les abus du pouvoir est un pas qui décourage fortement les abuseurs.
C'est une émission formidable. Les problèmes de société, coup d'héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Dans quel basson la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés.
Alors voilà, rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Alors, revenons maintenant avec nos deux invités, Gina, qui, bonjour Gina, d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mario, d'être là aussi parmi nous. Gina, votre cas quand même, c'est particulier, hein, il faut le dire et il faut le redire aussi. Vous, avant d'arriver à ce rêve-là, parce que vous avez fait un rêve, et suite à ce rêve-là, c'est l'enfer. Oui. Alors, avant d'arriver à ce rêve-là, vous roulez sur l'autoroute, c'est ça?
Sur l'autoroute 50, à la hauteur de la chute. Et j'étais victime d'un acte criminel.
Quelqu'un qui a lancé une pierre sur votre pare-brise, c'est ça?
Et voilà, oui. Au-dessus du viaduc, il y avait quelqu'un, il a lancé un objet dans mon pare-brise.
OK.
Et j'ai perdu connaissance. Et c'est
Vous étiez enceinte ce jour-là?
Exactement.
J'étais enceinte, OK, c'est ça.
J'ai mentionné au policier que j'étais enceinte. Mon mari, à cette époque-là, est arrivé sur les lieux et il a clairement dit « J'espère qu'il n'est rien arrivé à notre enfant, ma femme est enceinte. » Et au-delà de tout ça, le policier voulait qu'on déplace le véhicule. Il pouvait pas rester sur le bord de l'autoroute, alors j'ai mentionné que je ne reprenais pas le véhicule parce qu'il y avait des bris partout. Tout de vitre.
Oui.
Et c'est à cette époque-là mon conjoint qui a déplacé le véhicule et moi j'ai pris son véhicule pour revenir au domicile. Ils nous ont jamais dit d'aller à l'hôpital, jamais.
Ils n'ont pas conduit à l'hôpital même après?
Pas du tout, pas du tout.
Puis, même après un accident sur l'autoroute?
Oui, exactement.
Ils ont pu faire un appel à une ambulance?
Non plus.
Et vous étiez enceinte de combien de temps, madame?
La journée de cet accident-là, j'étais enceinte de 9 semaines et 4 jours.
9 semaines, oui. Et vous avez signalé comme quoi vous êtes enceinte?
Ah oui, puis le mari aussi l'a déclaré.
Alors vous avez pris vos propres moyens pour se rendre chez vous?
Oui, et exactement.
Qu'est-ce qui t'est arrivé par rapport à votre...
Ben les jours, dès mon arrivée, j'ai...
Chez vous, là?
Ah oui, dès mon arrivée...
Les douleurs, j'imagine?
J'avais même pas eu conscience, après tant d'heures, que j'avais des vitres dans la bouche, j'en avais beaucoup. Puis, suite à ça, je priais très fort à ce que mon enfant survive parce que j'avais senti une énorme crampe à ce moment-là du fait au choc.
Et vous êtes allé à l'hôpital ou...
Non, pas du tout. Et du jour du 28 mars aller au 9 avril, le 4 avril, j'ai commencé à avoir des saignements. Je me suis rendue à l'hôpital et le 9 avril, j'ai accouché de mon fœtus dans ma salle de bain.
Oh my God, oui.
Et suite, ils m'ont fait un avortement parce que tous les débris n'avaient pas sorti. Le placenta n'était pas sorti. Alors, j'avais déjà, moi, un rendez-vous avec mon médecin de famille suite au suivi de grossesse le 12 avril. Et je mentionne au médecin comme quoi que ça m'avait pris 20 minutes pour changer la couche de mon enfant. Il m'a déclaré que j'étais en dépression. Alors, il m'a prescrit le Cymbalta et dès la première nuit, j'ai fait un cauchemar.
C'est ça. Alors, on arrive maintenant au problème. Là. On arrive au problème. On a bien compris, pour que les gens comprennent aussi, que suite à l'accident, vous avez perdu votre enfant, finalement.
Oui, exactement.
Alors, ça fait quand même un traumatisme, une mère, tu sais.
Un gros traumatisme.
Un grand traumatisme. Et vous allez chez le médecin, ils vont prescrire
le Cymbalta. Oui, un antidépresseur, mais qu'on a pu découvrir que c'est également un antidouleur.
Et vous prenez ce médicament-là et vous dormez. Et là, brusquement, vous allez un rêve, c'est ça?
Ah, ça se bouscule. Mes enfants meurent. Je suis mère de 7 enfants.
Dans le rêve.
Dans le rêve, okay. Exactement. Dans ma vie, à cette époque-là, j'étais maman de 6 enfants.
Oui.
Et c'est ça, je les voyais mourir.
Vous voyez vos enfants mourir?
Oui, de façon tragique, de se faire frapper par un train ou de se faire violer et tuer par des armes.
Mais un psychiatre, un psychologue, je sais pas, moi, il peut relier ça à l'accident que vous avez eu quand même, là, vous voir...
Je vais vous dire...
Vous n'avez pas de réponse à ça, hein?
Non, moi, ce que j'ai fait le 13, suite à ça, dans les dossiers, j'ai tous les rapports, j'ai fait une intervention parce que là, j'étais pas apte. Moi, personnellement, je ne disposais pas de... je ne disposais pas d'amener ce que j'apportais à mes enfants tous les jours.
Oui, oui.
Et au-delà de tout ça, je leur dis comme quoi que
Oui, oui. Continue sur le rêve, madame.
Je leur dis comme quoi je fais un rêve.
OK, OK.
C'est indiqué. Ils me posent des questions. Je réponds que non. Il y a rien parce qu'ils me posaient les questions éventuellement. Est-ce que vous êtes tentative de suicide? Bon, blablabla. Bla, bla. Moi, je leur dis non. Le 13 avril. Par contre, le 4 mai, on rentre que j'ai des idéations suicidaires et c'est pas normal. Moi, je cherche des réponses. Je vois.
C'est quoi le suicidaire, la réponse?
Dans
le rêve ou c'est toujours dans le rêve ou dans la réalité, là?
Là, on tombait dans la réalité, là.
Et la réalité, vous avez pensé à suicider?
Oui.
OK. Suite à quoi, madame?
Suite à le deuil, hein, parce que là, je comprenais pas.
Le deuil de l'enfant, hein?
Je comprenais pas pourquoi cet enfant-là n'avait pas survécu, pourquoi l'accident, tout ce qui... J'étais prise dans...
OK, OK. Mais revenons toujours. Alors, vous, madame, suite à un accident, qu'on a tout compris, il y avait un accident sur l'autoroute, vous rendez chez vous, vous perdez votre enfant, vous prenez des médicaments, ces médicaments de conséquence aussi, et vous rêvez le soir comme quoi vos enfants ils sont frappés par des trains, par des voitures. Écoutez, moi je vois souvent, hein, moi j'avais un voisin que j'aime pas beaucoup, là je me vois souvent en train d'étrangler. Imaginez-vous, je suis chanceux de ne pas raconter cette histoire-là à tout le monde. Alors vous voyez ce rêve-là, et puis après ça, dans la réalité, vous sentez tellement déprimé que vous pensez au suicide.
Écoutez,
Marie, vous l'avez partagé. Vous avez partagé beaucoup cet événement.
Exactement, parce que c'est moi qui ai pris en charge son dossier, étant donné que c'était tous des avocats incompétents qu'ils avaient. C'est même son propre avocat qui l'a mis 54 jours en prison, selon les notes scénographiques. Écoutez, moi, quand j'ai vu son dossier la première fois, j'ai regardé tout de suite côté médicaments. Et j'ai regardé, premièrement, les effets secondaires du pharmacien, qui avait pratiquement rien à part.
Ce médicament qui est prescrit pour Madame Gia.
Le médicament de Cymbalta. Et toutes les auditeurs peuvent faire leur recherche eux-mêmes et ce que je vous dis, c'est concret. Le Cymbalta, les effets secondaires des médicaments par le pharmacien, c'est pratiquement nul, des petits maux de tête, des affaires comme ça.
Oui.
Si qu'on va voir sur le site de Santé Canada, c'est un petit peu plus gros, peut-être 4 ou 5 effets secondaires. Mais par contre, si qu'on va sur le site du fabricant Lilly en France, en passant, la compagnie fabricant ce médicament-là a déjà été reconnue pour 1,5 milliard de dédommagements pour des effets secondaires de différents médicaments.
Donne un exemple comme quoi les dommages.
Les effets secondaires dans le Cymbalta, si vous allez voir sur la compagnie Lilly incorporée en France, les effets secondaires, c'est qu'une personne sur 100 fait des rêves de meurtre une sur 1000 fait des tentatives de meurtre.
Ce que vous avez vérifié, ça c'est vérifiable.
C'est vérifié et c'est par les hautes instances d'Europe. Donc, le médicament est en libre circulation. Bien, c'est sûr, c'est prescrit, mais Santé Canada ferme les yeux sur un médicament qui peut être mortel, étant donné qu'une sur 1000 fait des tentatives de meurtre en Europe.
Alors, Mario, si j'ai bien compris, vous reliez le fait d'avoir ce sentiment de
totalement.
De
ceci et si
au médicament.
Exactement. Et toute personne, avant de prendre des antidépresseurs, devrait vérifier les effets secondaires, parce que madame est suivie par un expert psychiatre, et c'est confirmé que les rêves étaient par les effets secondaires du médicament. Mais j'étais intervenant moi-même en thérapie, donc j'ai eu à travailler dans les années 90 avec des personnes qui prenaient beaucoup de médicaments et j'ai pu constater beaucoup de choses. Et malheureusement, Santé Canada sont responsables en partie de mettre sur le marché supposément des antidépresseurs, mais tous les effets secondaires, je dis bien pratiquement tous les médicaments ont des effets secondaires qui amènent à la dépression.
Mais de cacher cette réalité.
C'est dangereux.
Alors là, on a compris.
Santé Canada qui cache ça.
Mario, vraiment, c'est gentil parce qu'on a compris au moins cette partie qui était un petit peu obscure.
Et le plus, madame, vous en parlez, ses rêves, la SAC lui avait mandaté un psychologue pour
la suivre. Oui, c'est ça. Alors,
les rêves étaient répertoriés depuis un an sans aucune crainte du psychologue.
Alors, c'est réel quand même. Vous allez rencontrer le médecin pour lui raconter qu'est-ce que vous avez comme un rêve. Si vous n'avez rien dit, il n'y a pas de problème. Parce que vous êtes allé parler de votre rêve quand même, de vos rêves, là. Comme quoi, vous avez vu, suite à ça, il y a le suicide, le sentiment de suicide. Mario nous a bien expliqué les effets de ce médicament et tout. Et suite à ça, il y a la police qui vont débarquer, il y a la DPJ, et ça commence là, ça n'a pas de sens là. Et vous allez même faire de la prison, 54 jours de prison.
Oui.
Alors écoutez là, explique-moi là, parce que là, moi, j'arrive pas à vous suivre.
Mais je vais poursuivre ce que je mentionnais, auquel je me voyais pas apte à être adéquate auprès de mes enfants. Mmh. Ce que je demandais, j'étais très fatiguée. Je comprenais pas pourquoi que j'étais excessivement fatiguée. C'est oui. l'aide que j'allais rechercher auprès des intervenants. Ils ont pas pu être en mesure de pouvoir me répondre. Tout ce qu'ils savaient me dire, c'était que j'étais en dépression, alors que tout le monde aux alentours qui me connaissait me voyait pas en dépression et oui. pas du tout. Alors, suite à ça, j'ai eu un avocat de la SAC que j'ai contacté. Lui a eu des démarches auprès d'un psychologue. Mario en a fait part.
Oui.
J'ai commencé un suivi avec le psychologue et j'ai mentionné mes cauchemars. Les intervenants, j'ai eu 14 intervenants de 2011 à 2013. Mm-hmm. Et oui, les faits ont été dits à certaines personnes, mais je suppose une personne qui se répète. Si j'allais voir mon psychologue, j'allais pas dire mes problèmes à mon médecin. Mmh. J'ai pas de problème à aller courir sur les murs puis dire je rêve. Non, j'avais quelqu'un pour me cibler là. Et les autres interventions, c'était de l'aide que je voulais pour mes enfants et mon entreprise.
Oui.
Parce que faut pas oublier que j'avais une entreprise à domicile qui était une maison de répit et d'amusement pour les enfants de 0 à 13 ans. Et j'avais 91 enfants inscrits.
91 enfants?
Oui. 91 enfants inscrits.
Vous animez ces enfants, j'imagine.
Oui, c'était 24 heures sur 24. Alors, les parents, certains parents me prenaient pour une garderie.
Oui.
D'autres, c'était pour du repos
oui.
Ou peu importe leur situation de travail. Et j'avais toujours des enfants la nuit, oui. Constamment.
Oui.
Là, suite à tout ça, effectivement, les cauchemars se sont amplifiés. Là, je les voyais plus mourir. Là, ça vaguait beaucoup avec ma situation familiale. Familiale. Puis, on s'entend que tout le fait qu'on a une entreprise, moi, j'étais plus apte à gérer cette entreprise-là, que j'ai dû faire face à des employés qui ont été des coûts excessifs.
Qu'ils ont pris la relève, oui.
Oui, ben, il fallait que je débourse, oui, moi, ces coûts-là, fait, à oui. ces gens-là. Et ça m'a induit dans une situation financière totalement désagréable.
Mais...
Puis, je mentionnais au psychologue mes rêves, comme quoi qu'il y avait toujours des scènes de couteau, tout le temps. C'était constamment. Puis, il me guidait. Alors, le fait qu'il me guidait, je prenais beaucoup. Je suis une personne qui analyse, qui comprend beaucoup de choses. J'ai réfléchi sur tout ce qu'il me disait pour pouvoir avancer, mmh. parce que je oui. ne pouvais pas rester dans cette situation-là. Moi, je voulais reprendre ma vie.
Oui. Chercher de l'aide, quoi.
Ben, chercher de l'aide, mais c'était réellement les réponses. Pourquoi je n'arrivais plus à rester éveillée le soir? Pourquoi j'arrivais pas à faire la lecture? Parce que c'est le point où ce que la DPJ sont rentrés dans ma vie.
Oui, my God, oui, je sais. Et la DPJ sont rentrés, puis ils ont retiré vos enfants.
Pas à ce moment-là, non.
Je dure plus tard, oui. Oui,
oui. Oui. La DPJ sont rentrés le 12 mai. Et le signalement, je veux en faire part au public, c'est que j'avais les cheveux sales et le linge taché. Je travaille avec des enfants. Alors, si cette personne-là qui s'est présentée chez moi cette journée-là et que j'avais fait de la peinture, mettons,
si
un peintre va peinturer, risque peut-être qu'il va être taché par
ben
sa
oui.
peinture.
Ben, sinon, c'est des peintres, un peintre.
Est-ce qu'on va aller lui enlever au père ou à la mère qui peinture son enfant parce que son linge est taché?
My God.
Hein? C'est
et
grave.
Vous travaillez dans un atelier, madame. Vous travaillez avec la peinture, avec les enfants et tout.
Ben, je fais tout avec les enfants. Tout ce qui est une mère va apporter.
Mais avant d'arriver à cette histoire de la DPJ, de toute façon, qu'on ne oui. veut pas parler beaucoup, mais
non.
revenons un peu au cauchemar
oui.
et l'intervention de la SQ, hein, c'est la
oui.
police qui sont venus vous voir. Hein. Et le DPCP, il a donné ordre d'arrestation.
Oui.
Vous êtes incarcéré.
Oui, moi, ben, je vais rentrer légèrement là dans les faits concrets.
Je comprends, il faut rentrer légèrement.
Oui,
là.
Ben, parce qu'il faut que les gens comprennent. C'est exactement le fait que je racontais mes rêves.
Oui.
L'intervenant de la DPJ amplifiait en me posant des questions. Puis, moi, dans une naïveté et le fait que je suis honnête, je répondais. Mais il n'y avait rien de mal parce que pour moi, c'était un rêve.
Ben, vous.
Alors que cette dame-là a interprété vraiment, je ne sais pas ce qu'elle a pu aller dire et que les gens ont constaté, sauf que ça a commencé que le 23... le rêve a été fait dans la nuit. Bon, on commence une nuit le 15, alors dans la nuit du 15 au 16, j'avais tout simplement mis un couteau sur le bureau de mes enfants. Bon, l'histoire est très constante. Là, je me promenais dans la maison, puis je dépose le bureau.
Toujours dans un rêve.
Effectivement, faut vraiment
Mais dans mon rêve,
c'est que mon psychologue était dans ma cuisine. Je l'ai dit, ça a débigé, alors que mon psychologue ne se trouvait pas dans ma cuisine, on s'entend. Du fait que là, j'avais mentionné ça, le 22, la personne de la DPJ se présente chez moi, puis je lui dis tout ce qui se passait, parce que ça faisait comme peut-être un mois qu'on s'était pas vu, que moi je lançais tout ce qui se passait parce que j'étais troublée.
J'étais troublée dans ma vie,
là. Il y avait rien qui fonctionnait par rapport à ces cauchemars-là. Puis, le 23, on m'interdit de dormir à la maison, dans la maison.
Qui vous interdit?
La DPJ.
OK. Mais madame, j'ai une chose. Votre rapport à travers tout ce cauchemar-là, votre rapport avec vos enfants, vous avez toujours eu des bons rapports avec vos enfants?
Bien, écoutez, on va aller au-delà de ça. C'est que la DPJ ont même filmé chez moi avec ma fille Abigail ou d'autres enfants qu'on voit, là, sur que j'ai en ma possession, durant 8 fois. Oui. J'ai des programmes. Il me disait que je n'étais pas... que j'allais très bien. La seule chose qui n'allait pas, c'était la dépression.
Ils vous ont mis une caméra chez vous?
Non, c'était un intervenant
qui vous a filmé.
C'était un programme.
Juste pour comprendre bien, c'est que le rapport avec vos enfants, il a toujours été bien. Il
n'y
avait aucun problème, le rapport avec les enfants.
Excellent.
Malgré ces moments de stress et malgré ce moment de... il n'y avait pas de problème. Le rapport, il a toujours resté... excellent, c'est ça ce que j'ai vécu.
Tous les enfants ont survécu, hein?
Même les enfants qui ne m'appartenaient pas, les enfants des autres parents, des autres clients, tous les enfants étaient là, ils étaient très actifs.
J'imagine.
Et puis, ils m'aimaient beaucoup, alors je suis une personne très dynamique.
Ça, là-dessus, je peux confirmer parce que j'ai été moi-même rencontrer des anciens clients de Mme Legina et les parents m'ont confirmé. Parce que moi, j'ai investigué vraiment savoir le fonctionnement, parce que même que le DPJ a menacé l'intervenante au dossier à l'époque, a menacé les clients de madame que s'ils retournaient les enfants là, le DPJ leur enlevait les enfants.
Oh
oui, c'est
donc, votre commerce est fini, là, l'entreprise est fermée.
Suite à ces accusations, elle a tout perdu, fermé son entreprise, sa crédibilité,
tout est tombé, là.
Ouais, puis le pire dans tout ça, c'est que le DPCP...
C'est ça que je veux que tu me parles, le DCPCP. Ouais. Moi, j'aime ce gars-là, moi, je l'aime beaucoup,
cette dame-là, c'est une dame. Oui. Elle a, quand on regarde les plaintes criminelles, c'est assez surprenant. Il y a dans une place, ils ont retenu une charge. La policière, la Sûreté du Québec, a écrit dans sa déposition policière en racontant l'histoire de madame.
L'histoire de madame, oui.
Le DPJ disait que c'était pas un rêve, madame disait que c'était un rêve, et dedans, ça dit, ça raconte un petit peu, madame est rentrée dans la chambre, toujours dans son rêve.
Suite
à son rêve.
Suite à son rêve, elle a déposé le couteau après son suicide. Donc, la procureure, comment se fait-il qu'elle n'a pas allumé ni l'enquêteur?
Son suicide. C'est un rêve, là, on parle du rêve.
C'est écrit
là.
Noir sur blanc,
c'est écrit
suite
noir.
À son suicide.
Suite à son suicide. Si elle s'est suicidée, on fait donc rapport à un rêve automatiquement. Elle est vivante devant nous.
Et le directeur des poursuites criminelles et pénales a autorisé une accusation
Exactement.
Sur la base comme quoi elle s'est suicidée.
Son suicide, elle a déposé le couteau sur le bureau de l'enfant.
Exactement. Je ne sais pas où c'est qu'ils ont la tête. Ils ne condamnent pas des policiers. Il n'y a même pas encore des policiers qui brisent un bras, mais une femme femme qui fait des rêves, puis un rapport complètement loufoque, parce qu'on s'entend que le psychiatre, quand il a vu ça, il a parti à rire, là. C'est complètement loufoque. Et en passant, le psychiatre, il est bien connu, c'est le docteur Pierre Mailloux. Donc, pour ceux qui disent que c'est un féministe, c'est complètement faux. Madame l'aime bien. Et c'est un psychiatre expert hors pair. Je vous le dis, là, il a fait une vraie psychanalyse et tout ce qu'on dit, on peut le confirmer et affirmer.
Madame, revenons toujours, parce que vous avez passé 54 jours en prison, en détention.
Oui, à Tanguay.
Avant d'arriver ça, est-ce que vous avez un cas judiciaire avant? Est-ce que vous avez des antécédents judiciaires avant?
Non.
Est-ce que vous avez, madame, est-ce que la DPJ, ils vous ont retiré vos enfants avant, il y avait quoi que ce soit avec la DPJ?
Non, pas
en aucun moment.
En aucun moment.
Tout ça a commencé à partir où vous avez vu un rêve, c'est tout? C'est le rêve qui a foutu toute votre vie, finalement.
Oui, effectivement.
Les médicaments ont provoqué le rêve.
Suite à mon accident automobile, à l'accident d'automobile qui a surgi. Et le fait que lorsqu'on m'a arrêté chez moi, on s'entend que c'était sous les yeux de mes enfants.
Oh my God.
Comment est-ce que la police débarque là-dedans?
Oui.
Effectivement, je vais vous dire, là, c'est que moi, j'avais pas le droit de dormir chez moi. On m'a jamais interdit d'aller allaiter mon bébé parce que j'allaitais un bébé de 9 mois. C'est la journée même qu'ils m'ont arrêté. Et je me trouvais chez moi. Il y a deux intervenantes de la DPJ qui se sont présentées chez moi. Alors, mon ex-mari qui se trouvait là a dit, ben oui, Gina est là, mais eux ont paniqué, ont appelé la police. C'est sûr que mon ex-mari a également appelé la police parce qu'il voulait pas qu'il soit là, la DPJ.
Ouais.
Moi, j'avais tous les droits d'aller allaiter mon bébé. J'avais tous les droits d'être là, d'être présente auprès de mes enfants. On m'avait jamais interdit rien par rapport à ça. Suite à ça, supposément qu'on m'aurait dit que c'était tentative de meurtre, que les policières m'ont dit que c'était tentative de meurtre. Je n'ai jamais eu conscience de ça. Je suis embarquée sainement dans la voiture de police avec mes clés et j'avais aussi le médicament que j'avais entre mes mains.
Tentative de meurtre, madame, c'est quoi la histoire de tentative de meurtre ici?
Tentative de meurtre sur mes trois enfants, mes trois filles.
Toujours dans le rêve?
Mm-hmm. Non. Eux m'ont accusé.
Non, eux, il n'y avait plus de rêve.
Non.
Ah oui, OK.
Il y a eu plusieurs accusations, tentative de meurtre. Il y a eu utilisation d'une arme dans un décès dangereux et aussi utilisation d'une arme dans un voie de fait. Alors qu'il n'y avait aucune personne dans le voie de fait et il n'y avait aucune arme en preuve. Il n'y avait rien. Rien, là.
Mais là,
des déclarations policières complètement loufoques. C'est... Aucune preuve à déposer. 54 jours de prison, ferme son entreprise. Bravo le système.
Et Mario, si j'ai bien compris, après ça, il y avait arrêt de procédure?
Oui, le 9 janvier, ce qui est arrivé, c'est qu'en janvier l'année dernière, j'avais fait une requête en cour supérieure, parce qu'étant donné que j'avais pris le dossier chambre jeunesse et cour criminelle, j'avais fait une requête, ce qui appelle une requête extraordinaire en arrêt des procédures, en réunion des parties. Et j'avais intimé différents ministres, dont le ministre de la Justice, le ministre de la Santé, le ministre de la Chambre de la Jeunesse, ainsi que Pauline Marois. Ouais, j'avais intimé 5 ministres. Ils ont mandaté un avocat qui a fait une plainte, une requête en irrecevabilité. Leur requête n'a pas passé. Par contre, Gina n'avait pas la connaissance de la cour. Donc, ça l'a retombé. Ils ont fait à croire à Gina qu'on n'était pas devant le bon tribunal.
Okay.
Or, nous sommes retournés avec le temps en cour criminelle, Cour du Québec. Et finalement, ils ont reporté les accusations parce que Gina demandait un procès devant le jury. On s'alignait pour une vingtaine de jours de procès. Ils ont remis ça en cour supérieure et c'est en cour supérieure exactement à la même place un an après qu'ils ont fait l'arrêt des procédures le 9 janvier. Donc, un an de niaisage.
Pour finir par être
parce que le dossier, on l'a très, très bien monté et solide et that's it.
C'est pas parce que le dossier est solide, parce que madame...
Ben, il a fallu le prouver, parce que madame n'était pas respectée quand elle parlait. Les avocats, les intervenants, personne ne la respectait. J'ai assisté à ces rencontres et personne ne respectait madame. Oui. C'était... Vous savez, regarde entre les branches, là, il y a déjà eu une émission comme quoi que quand le DPJ réussit à enlever un enfant, ça rapporte 108 000 par année. Oui. Maintenant, madame offre un service à 91 par an. Donc, il y a 91 parents, 91 familles qui peuvent bénéficier que quand ils sont fatigués d'un soutien de madame qui ouvre sa maison 24 heures sur 24. Madame, là, pourrait être un gros manque à gagner pour le DPJ. 91 enfants qui ont un soutien autre que le DPJ.
Oui, mais Mario...
ça peut monter loin, là.
Ouais, mais Mario pourrait, c'est-à-dire, monter une accusation qui, finalement, cette accusation est tombée et quand même subir ce qu'elle a subi jusqu'à présent. Hein. Vous souffrez toujours jusqu'à présent, madame, j'imagine. Ouais. Tout ça, c'est basé sur un rêve, sur des... Il n'y a rien de solide, hein. Il n'y a rien, c'est ça?
C'est incroyable.
C'est incroyable.
Ouais. Lorsque je veux poursuivre, lorsque j'étais en prison, on m'a interdit de communiquer verbalement avec mes enfants. J'avais des enfants, un enfant de majeur. Elle n'a pas été inclue dans les conditions. Par contre, durant mon séjour en prison, j'ai un fils qui est tombé majeur et j'avais un enfant de 17 ans. J'avais pas accès à communiquer verbalement
avec
mes enfants. Ouais. Je ne comprenais pas où était le risque de parler avec mes enfants verbalement. Où était le crime?
Oui.
On peut pas faire du mal à quelqu'un par téléphone. Et les conditions qu'on m'a instaurées, le DPCP, je n'avais pas accès, que depuis le 26 avril 2013, je n'avais aucun accès à des mineurs. Si je me trouvais à côté d'un mineur, je me ramassais en prison, là. Alors, les conditions étaient dans le but que je ne reparte pas mon entreprise. Mm-hmm. Le fait qu'on me dit pas d'enfant 0-18 ans, aucun contact, c'est clair que là, ils ont détruit ma vie, là.
Oui, on va faire peut-être, chère auditrice, chère auditeur, peut-être on va faire juste une petite pause musicale. On va revenir quand même vers, pour conclure un petit peu cette histoire qui est très douloureuse, cette histoire qui a vraiment pas de sens. Alors, restez à l'écoute après une pause musicale et on va revenir avec vous, chère auditrice, chère auditeur. Alors voilà, rebonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine de Québec. Et je reviens toujours avec cette maman qui, devant moi, je vois les larmes qui coulent comme ça. Ça me brise un peu le cœur. Mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Gina, peut-être on vous laisse dire quelques mots sur ce que vous avez, ce que, l'enfer que vous avez vu. Vous avez vécu l'enfer, hein? Moi, je le souhaiterais à personne, personnellement.
Je le souhaite à personne, effectivement. Oui, oui. C'est une tragédie totale.
C'est une tragédie, c'est une tragédie. Tout à fait, le mot est juste.
Le fait que on a plus de liberté, le fait que la prison, on doit subir des choses insensées, je rentre en guillemets, le fait qu'on doit se mettre à nu très souvent pour des fouilles.
L'humiliation, vous parlez.
C'est clair. Mes enfants me manquent terriblement. Mes enfants n'ont pas à subir ce qu'ils subissent aujourd'hui. Et leur souffrance est immense. Ma souffrance est également que... Chaque seconde, je pense à eux et je vais vous dire que je dois avoir une grande souffrance parce que je pleure au-dessus de 4 à 5 heures par jour.
Ben, je comprends. Ouais.
Le fait que je vais faire... à repas, puis les larmes vont me couler parce que...
Mais c'est trop dur, hein, il faut faire attention. Hein, ce que vous avez vécu, c'est pas facile. Hein, on vit pas ça tous les jours. Hein, c'est surtout...
C'est insensé de se faire arracher nos enfants que les enfants doivent subir. On s'entend que j'allaitais un enfant, j'allaitais un bébé lorsqu'ils m'ont arrêté. Ouais. J'avais mes propres enfants sur les lieux et des enfants de mon entreprise qui ont vu la scène. Et aujourd'hui, moi, j'ai sur caméra ma fille qui dit « Maman, elle fait un dessin, puis je suis traumatisée sur la caméra, on voit pas l'enfant faire le dessin, puis sauf qu'on l'entend bien dire « Les méchants t'ont apporté, les méchants t'ont enfermé là. »
Elle parlait d'arrestation.
Oui, parce qu'elle a été traumatisée, là, et elle avait 4 ans.
Ouais, ça, c'est affreux, parce qu'il faut voir aussi, c'est pas... Tout ça s'accumule au même temps.
Un vrai cauchemar kafkaïen.
Et à la prison, il retirer vos enfants, la perte de votre
fermeture de mon entreprise.
Totalement loufoque. Des faits vraiment relevant de code criminel sont totalement absents. Et le système, malgré ça, s'emballe et met sous son rouleau compresseur une personne sans défense aucune.
Oui, mais Yann, ce qui est important, c'est au lieu de construire, c'est détruire. C'est ça que je retiens vraiment.
Il faut faire attention parce qu'on est très vulnérable. Alors, j'ai été excessivement vulnérable.
Alors, notre système, peu importe si on parle de la DPJ, si on parle de la police, tous nos instances, comme la justice elle-même, dysfonctionnelle, au plus haut degré, ça a commencé dès le moment où on a refusé d'appliquer en bonne et due forme la règle, le principe de la démocratie qui est inscrit dans la Constitution. La loi s'applique à tous. Alors, ceux qui ne font pas partie du système ne sont que des moutons qu'on peut tondre, qu'on peut écraser, qu'on peut écorcher, égorger à sa guise. Tandis que le faisant partie du système est impunissable, échappe à toute responsabilité. Alors c'est ça ce qui caractérise de plus en plus notre société prétendument démocratique.
Oui, mais Yann aussi, vous avez bien vraiment souligné ça, c'était très bien de le dire, mais on a toujours remarqué qu'il y a quand même, il s'agit aussi des personnes incompétentes. Je suis pas mal certain, la plupart des gens n'ont plus rien à voir avec le poste
que j'occupe.
Non, mais l'abus de pouvoir...
Ce sont mes gens qui me procurent mon poste, ou peu importe, whatever. Et moi, je m'accommode avec mon poste dans le système, et là, je peux appliquer mon arbitraire.
Voilà.
Mes caprices priment sur la loi, mes caprices priment sur les personnes qui ne font pas partie du système. Ça, je peux faire tout ce que je veux avec ces gens-là. On en a vu énormément de ces cas parmi des intervenants de la DPJ surtout, mais aussi les policiers. Voilà le témoignage du monsieur
Dufresne. Oui.
Et on en connaît de nombreux dossiers qui sont similaires.
Mais vous savez, Yann, pour eux, la version de l'SQ ou de la DPJ, c'est toujours, ils vont dire préventive. Hein, ils vont toujours jouer sur ça. Écoutez, c'est une action préventive. On a... Qu'est-ce que vous pensez, Mario, là, qu'on vous répond comme quoi c'est, il fallait prévenir, hein, pour prévenir, on va la mettre en prison, on va tout faire là, parce que pour épargné qu'il arrivera quoi que ce soit aux enfants.
C'est pas ça, en aucun temps. Je vais vous dire, en aucun temps, c'était pour protéger les enfants dans le dossier de madame.
Exact.
Dans le dossier de madame, il y a une personne en arthrose très mal intentionnée que j'ai eue moi-même dans mon dossier.
Ah, ça, vous voulez nous parler
ben
aussi?
Ben oui, c'est la même personne. La personne a été changée d'une place à l'autre. La personne travaillait à Deux-Montagnes, elle a été transférée à La Chute. En 2010, elle a remis un pédophile en contact avec mon enfant. Donc, la personne qui pilotait le dossier de Mme Laporte, à l'époque, c'était complètement... C'était complètement une incompétente, tant qu'à moi. Je veux juste soulever un point. Les intervenants du DPJ, il y a des bons intervenants, parce que j'en ai rencontré quelques-uns. Il y a des bonnes personnes et il y a des gens très mal intentionnés que je catalogue qui ont infiltré le système. Des gens en abus de pouvoir qui ont sûrement grandi malheureux dans leur vie, vivent l'intimidation
à
l'école.
Je suis d'accord avec
et
vous.
Et avec une soif de pouvoir que quand ils ont le titre, ils disent, mais là, peu importe le monde. Donc, moi, je lance un appel aux gens des Laurentides ce matin. Il y a une enquête criminelle qui est en cours présentement, une vraie enquête faite par le DSPJ. C'est une plainte qui a été formulée. Elle est en cours et je ramasse des preuves supplémentaires concernant une personne.
Je cible une personne en particulier,
une intervenante. J'ai des preuves concrètes et je recherche des gens
et c'est pas du qui tout ont... cas. Vous pensez
non, non,
qu'il y a
c'est,
plusieurs
cas. C'est clair qu'il y a d'autres cas parce que la personne s'est parjurée à la cour. Elle est venue mentir devant témoins. Et dernièrement, pas plus tard qu'hier, elle a inventé des propos, et je le dis, c'était à mon enfant, elle a inventé des propos comme quoi que je dénigrais sa mère. Donc, une travailleuse sociale qui parle à un enfant, qui dit que ton père dénigre ta mère, alors que c'est faux, et cette travailleuse sociale-là avait même, à l'époque, durant un temps retenu, une expertise psychiatrique pour sécuriser l'enfant. Okay. Donc, s'il y a des gens qui ont comme intervenante Mme Karine Fortier, qui travaille à Sainte-Thérèse, j'offre le service de... On est un groupe de parents qui nous voulons développer, continuer plutôt l'enquête là-dessus. Vous pouvez communiquer à Mouvement Action Justice au 514-273-4302 et l'enquête, c'est parce que c'est une récidiviste...
Quand vous parlez d'enquête, excuse-moi, là, je ne suis pas d'accord avec vous.
C'est parce que la dame est déjà sous enquête criminelle. Il y a un groupe d'avocats, cinq avocats.
Ça, c'est vous qui dites ça?
C'est pas moi qui le dis seulement, c'est sur papier. Il y a cinq avocats, quatre travailleurs sociaux et un psychologue qui sont sous enquête criminelle.
Alors ça, c'est tout sous réserve.
Que ça va se ramasser de... C'est le DPCP a le dossier présentement.
Mais Mario, merci beaucoup.
Votre initiative est de constituer
un plus gros dossier.
Un dossier.
Exactement.
En réunissant les cas de dérapage de système.
Exactement, parce que les avocats au dossier, j'ai d'autres dossiers d'accumulés qui sont en preuve, étant donné que c'est des récidivistes.
Alors, sur tout réserve, je dis bien sur toute réserve. Nous n'avons pas aucune information sur ce sujet-là. Vous êtes le garant de ça. Là, c'est à vous de. Mais nous ne sommes pas ici pour accuser qui que ce soit. Alors, chère auditrice, cher auditeur, sur ça, on vient malheureusement à la fin de cette émission-là. J'aimerais bien juste dire merci à Madame Ginia, la mère qui est en face de moi. Merci de votre courage aussi de venir jusqu'ici pour témoigner de cette douloureuse expérience. J'aimerais aussi Mario de son intervention. Merci à Yann et à mon collègue Ernest. Alors, merci beaucoup. Alors, chère auditrice, chers auditeurs, sur ça, je vous dis passez une excellente fin de semaine et on va se revoir probablement la semaine prochaine avec un autre épisode de l'Injustice au Québec. Au revoir.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté.
Envie de vous faire connaître? Besoin d'un coup de pouce publicitaire? Radio Centre-Ville vous offre la possibilité de rejoindre notre public multiculturel et multilingue. Français, anglais, espagnol, portugais, créole, grec, cantonais et mandarin. Un éventail commercial dont vous ne pouvez pas vous passer. N'attendez plus et profitez de vos 40 ans d'expertise. Pour information, contactez dès maintenant Christina 514-495-8836 ou visitez www.radiocentreville.com.
Bonne année à tous de la part de ASC Montréal, votre centre de tests agréés pour le TEF-TEFAC. Pour commencer l'année 2015, ASC Montréal vous offre une promotion sur le TEF et le TEFAC de base. Au lieu de 250 ou 245 $ vous ne payez que 195 $ du 7 au 30 janvier. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et bénéficiez de cette super promotion. Vous devez être disponible du lundi au vendredi, le matin et l'après-midi. Appelez maintenant 514-844-4849.
Contribuez au maintien de la seule radio communautaire multilingue de Montréal. En donnant maintenant de façon sécuritaire sur radiocentreville.com, vos dons sont déductibles d'impôts.
Radio Centreville,
102,3 FM, un monde différent.
Radio Centreville, 102,3 FM.